Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nos bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Nous sommes toujours avec Véronique Izard, chercheuse en sciences cognitives, membre du labo bébé de l'Université Paris-Cité. Les mathématiques sont au cœur de ses recherches. Dans l'épisode précédent de notre podcast « Les super-pouvoirs des bébés », Véronique Izard nous a expliqué comment elle a démontré que les nouveau-nés sont sensibles au nombre dès leurs premières heures de vie et qu'ils ont des intuitions mathématiques. Les capacités d'abstraction des nouveau-nés sont étourdissantes. Dès leur naissance, les bébés cherchent du sens. Et moi, je n'en reviens toujours pas. Mais vous, vous êtes habitué à ça, à ces découvertes, et vous travaillez, c'est vos recherches. Mais moi, je suis en fait fascinée par ces intuitions qu'ont les bébés. Plus je rencontre de chercheurs comme vous, plus je n'en reviens pas du cerveau, en fait. Quel cerveau? Ah, c'est un cerveau tout puissant, surpuissant, de ces bébés. Comment vous diriez?
Je sais pas, on a le même, vous savez. Non, j'allais dire quelque chose. Bon, alors du coup, je réponds pas à votre question, mais j'allais dire autre chose.
Dites-moi.
Qui est en fait une recherche qui a été faite par Lisa Feigenson aux États-Unis sur nous, en tant qu'êtres humains, quelle intuition on a sur le bébé et sur l'apprentissage et sur le cerveau et tout ça. Et alors, pour moi, les résultats étaient assez fascinants. C'est-à-dire qu'elle demande à des gens... c'est quelqu'un qui travaille sur le bébé. Donc, elle connaît très, très bien tous ces résultats-là. Donc, elle a choisi quelques résultats qui, effectivement, sont assez surprenants, dont le résultat sur les nombres, mais des résultats sur la physique naïve, la psychologie naïve, des choses comme ça. Et elle demandait aux gens, à votre avis, à quel âge les enfants sont capables de faire ça, en leur donnant différentes vignettes, à la naissance, à 6 mois, à 1 an et demi, 2 ans, quand ils rentrent à l'école à 3 ans, à 6 ans, etc. Donc il y avait ces genres de capacités-là, donc de savoir percevoir les nombres, de savoir qu'un objet peut pas passer au travers d'un autre objet, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été démontrées par la recherche. Et elle avait quelque chose où, évidemment, ce n'est pas inné, c'était la lecture. Donc là, on sait très bien qu'il faut apprendre pour savoir lire, sinon ça ne marche pas. Et donc, elle a demandé aux gens à quel âge toutes ces capacités apparaissaient. Et les gens, spontanément, ont tendance à dire que ça apparaît assez tard, souvent avec l'entrée à l'école, parce qu'on pense que 3 ans, c'est à cet âge-là que vraiment il y a des choses qui vont se mettre en place. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont posé le même genre de questions à propos des animaux. Et en fait, sur les animaux, les gens ont tendance à avoir des intuitions beaucoup plus, on appelle ça nativistes. C'est-à-dire que pour les animaux, perception des quantités, ils mettaient ça assez tôt, en fait.
Plutôt que pour les bébés.
Plutôt pour les bébés. Donc on a une espèce de... nous, en tant qu'être humain, on a cette espèce de biais qui existe, où on pense que l'être humain, c'est un être qui n'est pas fini du tout et qui va tout apprendre, et avec des apprentissages qui peuvent être très longs. Tandis que l'animal, c'est un être qui n'est fini, et puis, il faut peut-être qu'il prenne un tout petit peu ses marques, mais très vite, tout se met en place.
Nous avons donc un biais. Nous pensons que les bébés humains en savent moins que les bébés animaux. Pourtant, d'autres recherches que celles de Véronique Izard ont donné à voir cette sensibilité au nombre chez les nouveau-nés. Des scientifiques ont créé un modèle pour simuler le fonctionnement du cerveau des nouveau-nés. C'est ce qu'on appelle un réseau de neurones. Un réseau de neurones, c'est une sorte de cerveau artificiel, mais qui physiquement se présente comme du code sur un ordinateur. Et ils ont cherché à savoir si un réseau de neurones non entraînés pouvait répondre au nombre.
Là, il y a des chercheurs qui se sont intéressés au réseau de neurones non entraînés. Donc on a l'architecture qui est là, mais on n'a pas commencé à lui montrer des choses. C'est un modèle du bébé, en fait. C'est un modèle du bébé à sa naissance. Il y a l'architecture qui est là, l'architecture du cerveau. Ici, c'est un cerveau artificiel. Hein. Voilà. Donc, on peut regarder qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau artificiel la première fois qu'il voit quelque chose, la première fois qu'on lui donne quelque chose en entrée. Et les chercheurs, en leur montrant des nuages de points un peu du même style de ce qu'on a montré nous au bébé, voient qu'il y a dans ces réseaux de neurones des parties qui répondent au nombre. Donc, pour moi, ça change complètement la perception, la conception de ce que c'est que la quantité numérique. C'est-à-dire, quand j'ai commencé mes recherches, je voyais ça comme quelque chose de très abstrait, de très complexe. En fait, pour moi, ce que ça montre, c'est que c'est une propriété qui est finalement peut-être une propriété un peu basique de la vision.
Ah oui.
Mais pour moi, c'est intriguant et ça a vraiment changé de ma perspective de voir que on trouvait cette réponse au nombre chez des réseaux de neurones qui ont été câblés n'importe comment, si on veut. Enfin, pas complètement n'importe comment, parce que y a la bonne architecture, les couches qui vont bien les unes sur les autres, mais un peu comme un cerveau à la naissance. Ouais. Et donc, il n'y a pas besoin d'expérience pour avoir une réponse qui extrait le nombre, en fait.
La sensibilité au nombre, le sens des quantités numériques, sont donc des connaissances noyaux présentes dans le cerveau des nouveau-nés dès leur naissance et qui ne demandent aucun apprentissage. Mais d'où viennent ces connaissances noyaux ? Véronique Izard me répond.
En fait, ce seraient des structures du cerveau qui ont été sélectionnés par l'évolution, qu'on va trouver chez d'autres espèces animales et aussi chez l'homme. C'est lié à cette intuition qu'on a aussi que l'animal, en fait, est un être précoce et il comprend beaucoup de choses précocement. En fait, nous aussi, êtres humains, on a aussi hérité de ces choses-là. C'est juste que par-dessus tout ça, on met plein de couches d'apprentissage en plus.
Il y a des connaissances noyaux en mathématiques, il y a des connaissances noyaux en quoi d'autre ? Quels sont les grands,
alors,
vous savez ?
Les grands thèmes qui ont été proposés, donc c'est tout ce qui est physique naïve, donc savoir comment les objets se comportent, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, donc ils ne peuvent pas passer au travers les uns des autres, ils ne vont pas disparaître et réapparaître ailleurs, des choses comme ça. Il y a les mathématiques, alors les mathématiques à la fois les nombres et de la géométrie. En géométrie, il y a aussi eu pas mal de travaux autour de l'espace qui nous entoure, en fait. Chez les bébés, à partir de 18 mois, parce qu'avant qu'ils marchent, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est aussi des recherches qui ont été faites, par exemple, chez le poussin. Il y a aussi des connaissances noyaux autour de tout ce qui est interaction sociale. Est-ce que les êtres humains sont amis entre eux, pas amis ? Qu'est-ce qui fait partie de mon groupe social versus d'un autre groupe social ? Avec par exemple la langue, qui est un indice qui est pris en compte pour les bébés, pour déterminer si quelqu'un fait partie de leur groupe versus d'un autre groupe. Et alors après, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qui a été postulé.
Et ça, c'est le résultat de l'évolution.
Et donc l'idée, voilà, ce sont des connaissances qui ont été sélectionnés par l'évolution, et donc qu'on va trouver aussi chez d'autres espèces animales, et en particulier chez l'homme.
Mais parce que les espèces animales, elles ont les autres connaissances noyaux ? Elles ont toutes ces connaissances noyaux aussi ? Non, ça dépend des animaux.
Alors, pour je vais vous répondre sur les nombres. Pour les nombres, en fait, là, dernièrement, j'ai travaillé avec des gens sur la drosophile. Et on a trouvé...
C'est quoi la drosophile ?
Ah, pardon, c'est les petites mouches... Oui. Les petites mouches qui viennent sur les fruits trop mûrs. Donc là, c'est une recherche que j'ai faite avec le laboratoire de Bassem Hassan à l'Institut du cerveau de la moelle pour montrer qu'il y avait cette perception de la quantité numérique chez la drosophile. On les met dans un enclos qui est rond. On met des images de part et d'autre de l'enclos. On met la drosophile au milieu de l'enclos. Et puis, elle se met à se balader. On l'empêche de voler. Elle se met à se balader et puis on regarde si elle va du côté de la première image ou du côté de la deuxième image. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'elles vont toujours, si on leur propose des points de part et d'autre, elles vont toujours du côté où il y a le plus de points.
Ouais.
Deux gros points versus six petits points, mais vont vers les six points.
Fascinant. C'est fascinant.
C'est vrai que oui, c'est fou, un si petit animal. Mais je pense que ça rejoint ce que je vous racontais tout à l'heure sur... finalement, le nombre dans notre perception visuelle, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'aussi compliqué que ça? Et ça ne doit pas l'être. Ça doit être quelque chose de simple à percevoir.
Après ses recherches sur les intuitions numériques couronnées de succès, Véronique Izard a décidé de s'intéresser à la perception des angles chez les nourrissons âgés de 3 mois et plus. Et là, les choses ne se sont pas du tout passées comme elle l'avait imaginé.
Là, ça a été une aventure beaucoup plus houleuse que l'aventure sur les nombres. Parce que donc, là, c'est au moment où je viens d'avoir mon poste au CNRS et je me dis on va être un petit peu stratégique, je vais faire des recherches assez risquées, mais je vais au moins faire un truc où on sait que ça va me mener quelque part, c'est un petit peu solide et tout. Dans la littérature, il y avait des vieux papiers qui prétendaient dire qu'ils avaient montré que les bébés percevaient les angles, mais alors il n'y avait rien qui était contrôlé, c'est-à-dire que les angles, donc ces deux lignes qui se rejoignent, les lignes avaient toujours la même longueur, étaient toujours au même endroit, enfin bon, bref. En s'inspirant de tout ce qui a été fait sur, par exemple, les nombres, maintenant, on sait faire des expériences qui sont beaucoup mieux contrôlées, où on va pouvoir montrer que le bébé peut reconnaître un angle malgré des changements d'orientation, de taille, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, on va faire cette expérience-là. Et donc là, je fais une superbe expérience avec tout qui varie sauf l'angle, tout ça. Et puis, on commence à montrer ça au bébé, et les bébés n'en ont rien à faire. Enfin, si, regardez nos choses, mais le changement d'angle, alors là, ça leur faisait ni chaud ni froid. Et on s'est dit, peut-être nos bébés sont trop jeunes, peut-être nos angles ne sont pas assez intéressants. Donc, on a essayé de changer plein de choses. Et je pense qu'au final, on a testé entre 100 et 200 bébés avant que, on se dise, on va réfléchir et on verra plus tard.
Mais ça peut être désespérant aussi, les expériences avec les bébés.
Ah bah oui, le problème c'est que quand ça marche, on sait pourquoi ça marche, mais quand ça marche pas, on sait pas pourquoi. Parce que en fait, ça peut ne pas marcher parce qu'ils ne comprennent pas la chose qu'on leur demande, mais ça peut aussi ne pas marcher parce que ça les a pas assez intéressés pour qu'ils nous montrent qu'ils ont compris. Et donc, on a fini par mettre ça de côté. Et dans une conférence, je rencontre mon ancienne directrice de postdoc qui me raconte qu'elle aussi a commencé à faire des tests sur les angles et que ça n'a pas l'air de marcher. Alors, je raconte mes déboires. Et donc, sur la base de ce qu'ils avaient commencé et de moi, tout ce que j'avais essayé, on s'est dit, mais si ça se trouve, ils ne voient pas les angles. Mais par contre, et c'est ça qui était joli, au lieu de faire varier l'angle, on a fait varier la longueur relative des lignes. Donc il y en a une qui est trois fois plus petite que l'autre, ou une qui est juste une fois et demie plus petite que l'autre.
Dans l'angle, dans le même dessin,
voilà,
dans le même dessin. C'est-à-dire qu'il va y avoir une branche très longue et une branche très courte.
Exactement, oui. Mais en faisant des variations de taille, des variations d'orientation. Et ça, les bébés le détectent. Donc ça, c'était assez joli, c'est que du coup, ça nous donne une première porte d'entrée vers la manière dont les bébés perçoivent les formes et leurs propriétés géométriques, qui n'est pas la même manière que nous. Parce que nous, les changements d'angle, ça nous saute aux yeux, en fait. Et donc, on a cette première indication que, en fait, les bébés, quand ils appréhendent des formes, ils font attention à tout ce qui est rapport de longueur et ils ne font pas attention à tout ce qui est changement d'angle.
Polytechnicienne, mathématicienne, chercheuse en sciences cognitives, Véronique Izard cherche à comprendre l'origine de la pensée mathématique. Elle se pose des questions philosophiques. Pourquoi les êtres humains font-ils des mathématiques? Quelle est la part universelle de la pensée mathématique chez l'homme? Et plus fondamentalement encore, elle voudrait pouvoir répondre à cette question essentielle.
Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de faire tout ce qu'on sait faire? Et en particulier, pour toutes ces capacités qui sont abstraites, qui sont très complexes, comment ça se fait qu'un cerveau, une entité biologique, avec plein d'approximations dedans, parce qu'il y a de l'incertitude, il y a du hasard, tout ça, comment ça peut avoir accès à des idées abstraites, alors qu'on est ancré dans le monde physique? Et la deuxième question que je trouve fascinante, mais là, je n'ai pas vraiment commencé à l'approcher complètement, c'est comment on peut avoir accès à des vérités qui nous semblent des vérités absolues. 1+1, ça vaut 2. Ça ne va pas valoir 3. Il n'y a pas d'erreur possible là-dessus, c'est une erreur. Il n'y a pas d'exception. Alors que notre cerveau, il a un fonctionnement stochastique. Enfin, tout ça, c'est des statistiques. Et donc, il y a des erreurs partout, tout le temps.
Mais quand même, ça persiste, hein, et un fond d'eux. C'est ça que vous voulez dire?
Parce que ce que je veux dire, oui, c'est qu'on part de quelque chose qui est fondé sur des mécanismes aléatoires, et ce quelque chose arrive à accéder à des vérités absolues où il n'y a plus d'aléatoire dedans. Comment ça se fait? Alors, je ne vais pas vous répondre.
Mais cet aléatoire, c'est le fait que notre cerveau fasse en permanence des statistiques. C'est-à-dire qu'en faisant des statistiques, il y a de l'aléatoire. Et c'est pour ça que vous parlez de caractère aléatoire.
Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais, c'est un processus physique. Donc, il y a plein de choses qui se passent en même temps.
Et quand même.
Et voilà.
Avant de se quitter, j'ai voulu poser une dernière question à Véronique Izard.
Et une dernière question. Je sais que vous êtes musicienne. Mm-hmm. Vous jouez de plein d'instruments, en fait. Vous jouez du violoncelle.
Alors, du violoncelle, ça fait longtemps que je n'en ai pas joué, le pauvre. Maintenant, je joue principalement du violon et donc de l'alto aussi, parce que c'est un peu entre les deux.
Et ça va avec les maths? Ça fonctionne, il y a quelque chose, toujours on dit qu'il y a quelque chose de commun.
Il y a peut-être un niveau très très abstrait dans les deux cas, il y a ce qu'on appelle des patterns ou des patrons, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher des régularités, il y en a dans la musique où on va trouver le même motif qui se répète mais de manière un petit peu changée, et puis... Et en mathématiques aussi, c'est la science des régularités. Donc peut-être qu'on peut trouver ce pont-là. Après, il y a un autre pont aussi qui est au fait que on utilise l'espace pour représenter toutes sortes de choses. Et en particulier, ce qu'on appelle la hauteur des sons. En français, on en parle vraiment en utilisant l'espace. Et ce lien entre hauteur des sons et hauteur physique, en fait, il est présent à la naissance aussi.
C'est-à-dire? C'est-à-dire hauteur des sons, hauteur physique, ça veut dire quoi? Un son aigu?
Un son aigu. Alors, dans l'expérience qui était faite, c'était un son qui monte ou un son qui descend, donc un voûte ou un voûte, un truc comme ça. Et en même temps, on proposait au nouveau-né une image avec une balle qui tombe ou qui monte. Et en fait, les nouveau-nés regardent plus longtemps quand ça va dans la même direction. Donc, il y a quelque chose de très profond dans ce lien entre son et espace, musique et espace. Et les mathématiques se font beaucoup, enfin, sont aussi très liées à l'espace. Et puis après, en musique, il y a tout ce qui est rythme, qui sont aussi des nombres qui sont orchestrés. Enfin, bon, ouais, voilà, il y a des ponts comme ça, à des niveaux un petit peu moins abstraits qui se retrouvent.
Dans le prochain épisode de notre podcast « Les super-pouvoirs des bébés », il sera justement question d'espace et de nombre et de la représentation qu'en ont les nouveau-nés. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Flora Bernard et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.